Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous les zinzins de l'Undercut, le paddock RMC, c'est tous les lundis pour débriefer tes week-ends de course et pour parler de toute l'actualité Formule 1. Tu commences à en avoir l'habitude, paddock RMC, que tu peux noter sur les applis de téléchargement et que tu peux retrouver également sur rmcsport.fr. FR, Grand Prix de Monaco exceptionnel. Charles Leclerc s'est enfin imposé chez lui à Monaco. C'est une première pour la star de la Scuderia Ferrari qui n'avait connu jusque-là que des déboires dans son pays. Pour en parler, pour en débattre même, les ingénieurs du paddock RMC du jour. Jean-Luc Roy, Louis Gerbier et un petit nouveau journaliste RMC Sport. Il bosse avec les camarades des Pistonnets F1 que vous pouvez retrouver sur YouTube et en podcast. C'est Hamza Rahmani. Salut les gars!
Salut, bonjour à tous.
Est-ce qu'on a le droit, Jean-Luc, d'enlever notre casquette de journaliste neutre aujourd'hui? Parce que je pense qu'on est tous contents de la victoire de Leclerc quand même.
Alors c'est pas un droit, c'est un devoir, donc oui.
J'aime comme ça, quand tu sors de ta neutralité, c'est parfait. On va bien évidemment revenir sur cette course qui n'a pas été la plus spectaculaire de la saison, mais qui, niveau émotion, a été d'un niveau assez incroyable. Je pense qu'on a été tous pris par ce qu'on a vu à Monaco, puisque Charles Leclerc est enfin le nouveau prince de Monaco. Il a même fait pleurer le prince Albert.
C'est parti avec un bon départ de Charles Leclerc pour le moment à l'intérieur. Devant la Ferrari peut-être qui va se placer en deuxième rang pour Carlos Sainz. Pour le moment, oui mais non, il reprend l'avantage. Oscar Piastri, sorti de Carlos Sainz au niveau du casino avec drapeau jaune immédiatement dans ce premier tour. Drapeau rouge, effectivement, ça a tapé fort. Et c'est Sergio Pérez qui s'est accroché avec les deux As, éliminé. Un accrochage entre les deux Alpines.
Encore, ça fait beaucoup là, non?
Une dernière accélération maintenant pour Charles Leclerc qui va décrocher une victoire historique. Là, dans les rues de Monaco, c'est la première fois qu'un pilote monégasque dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 s'impose à Monaco.
We want it. Finally.
Je l'adore cet hymne monégasque.
Ah ouais.
Avec des trompettes dans tous les sens et tout. Je sais pas, ça fait un peu, tu sais, un peu vieux jeu, mais j'aime bien. Ça va bien avec la principauté, je trouve. En tout cas, on a entendu dans la prod de Romain la joie de Charles quand il franchit la ligne d'arrivée, dans la radio, et puis derrière la communion avec son équipe, le podium où franchement il casse un petit peu le protocole en faisant une accolade au prince Albert II, qui était d'ailleurs en train de pleurer, hein, très touché par la victoire de Leclerc, son sourire assez enfantin où on imagine qu'il s'est remémoré tellement de choses sur le podium au moment d'entendre cet hymne monégasque. Je vais vous donner le classement de la course, les gars, avant de revenir sur ces moments très forts. Donc du coup, victoire de Charles Leclerc, sa sixième en Formule 1. Oscar Piastri, deuxième, il a su maintenir sa deuxième place sur sa McLaren. Troisième, Carlos Sainz sur sa Ferrari. Ferrari qui fait la grosse opération du week-end. Lando Norris est quatrième, George Russell 5e, Max Verstappen 6e. Il n'y avait pas grand chose à faire pour Verstappen, hein, qui a essayé de revenir un peu sur Russell, mais trop compliqué de dépasser à Monaco. 7e, Lewis Hamilton. 8e, Yuki Tsunoda, encore très bon. 9e, Alexander Albon, qui marque ses premiers points de la saison sur sa Williams. Et puis 10e, Pierre Gasly, qui prend lui aussi son premier point de la saison. Alonso 11e, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis on a bien évidemment Esteban Ocon qui a dû abandonner. Et puis ce gros crash de début de course entre Perez, Hülkenberg et Magnussen, vous l'avez entendu dans la prod de Romain Leroutier et les commentaires de Jean-Luc. Au championnat du monde, et ça c'est très intéressant les gars, parce que ça revient fort, 31 points désormais d'écart entre Max Verstappen et Charles Leclerc, 138 points pour Leclerc. Verstappen a encore une marge, mais ça commence à se réduire très sérieusement. Lando Norris est 3e, Carlos Sainz 4e, Sergio Pérez perd 2 places au classement pilote et est rétrogradé à la 5e place. Côté constructeur, Ferrari est désormais à 24 points de Red Bull, qui est la grande battue du week-end. Jean-Luc, on va revenir. Bon, il y a plein de débats autour de cette course. Il y a bien sûr la perf de Leclerc, il y a tout ce qui s'est passé au niveau de Alpine, il y a la quiétude aussi autour des Red Bull et de Verstappen, mais restons sur cette émotion de Charles Leclerc qui s'est jeté dans le port avec Fred Vasseur. Enfin bref, il y a eu, là, j'ai l'impression que l'après-course était peut-être plus sympa que la course au final.
Oui, probablement. Bah écoute, je sais bien, à Monaco, j'ai pas mal de mes potes, tu sais, qui écoutent évidemment et qui m'envoient des messages après en me disant ouais, c'était chiant, ça a pas bougé, les 10 premiers dans le même ordre. Je sais bien. Alors, je leur réponds toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on suit la course avec autant d'attention qu'évidemment nous le faisons, par passion et pas par profession, eh ben, on est obligé de trouver des centres d'intérêt. Alors moi, j'en ai trouvé. Ben, le premier, c'est quand même qu'on avait 4 pilotes pendant la majorité de la course qui n'ont jamais été séparés par plus de 5 secondes. C'est rarement arrivé. Alors tu vas me dire oui, parce qu'ils géraient les pneus. Bien sûr qu'il y a plein de raisons. Mais je veux dire, on savait que le moindre incident, et à Monaco, on en a vu plusieurs en commettre, hein, même parmi les meilleurs. Je rappelle toujours évidemment Ayrton Senna à l'époque avec 50 secondes d'avance sur Alain Prost en 89 au virage du Portier. Bon, ça veut dire que c'est tellement fin, et Charles l'a dit lui-même, les 10 derniers tours, il ne vivait plus. En plus, tu écoutes ta voiture. Bon, alors, je sais bien que de l'extérieur, c'est pas passionnant parce qu'il n'y a pas de dépassement. Mais bon, Monaco, c'est comme ça, à l'exception notable, évidemment, d'Olivier Panis en 96. Autrement, il faut être sur les deux premières lignes. Et puis surtout, il faut des éléments extérieurs. Alors effectivement, il faut notamment la pluie. Hein. On a pensé un moment que peut-être il y aurait quelques nuages. Ben non. Arrêt au stand, ben, du coup, il n'y en a pas eu, comme il y a eu deux départs. Donc oui, de l'extérieur, on ne va pas dire le contraire. Ce n'est pas le Grand Prix le plus passionnant qu'il y ait eu. Mais au plan émotionnel, et c'est ce dont nous parlons, ben, écoute, il y a comme... J'aime pas le mot revanche, parce que revanche sur quoi ? Mais c'est une logique absolue, c'est absolument mérité, et le fait que tous les autres pilotes spontanément soient venus le féliciter, non, c'est une histoire fantastique. Puis je te dis, pour Charles, je veux pas toujours faire dans le trémolo, mais quand même, il a pensé évidemment à son papa Hervé, hein, parti en 2017, quelques jours avant qu'il décroche son titre en F2. Faut le faire, ça dénote une force mentale de la part de Charles exceptionnelle. On pense à Jules Bianchi, évidemment, qui était comme son grand frère, qu'il avait pris sur son aile et qui aurait dû lui aussi intégrer la Scuderia Ferrari et certainement remporter, qui avait réalisé un exploit, hein, dans les rues de Monaco, vous en souvenez tous, où il avait décroché 2 points pour sa misérable équipe. Et puis Antoine Hubert, quand il décroche ses premières victoires, c'était son pote, hein, depuis le début, et donc il se tue à Spa et il décroche la victoire et il gagne à Monza. Bon, je pense que tout ça est revenu d'un coup. Comme il l'a dit, il n'est pas habituellement versé là-dedans, mais là, il a été débordé d'émotion et je crois qu'on l'a senti. Ça fout des frissons, voilà, quand on est humain, et il faut le rester.
Voilà, on va l'écouter quand même, Charles Leclerc, sur son émotion, c'était après la course.
C'est la course qui m'a fait rêver depuis tout petit. Et je pense que aussi avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, en étant 2 fois en pole et 2 fois on a raté la victoire pour une raison ou une autre, c'était super compliqué à accepter. La 3e, c'est la bonne et ça fait tellement du bien. Vraiment, il y a eu très peu de moments dans ma carrière, voire jamais, j'ai eu du mal à gérer les émotions en course. À 2 tours de l'arrivée, je suis sorti du tunnel, je voyais rien. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, j'avais les larmes aux yeux. Et après, bon, c'était, il fallait bien sûr que je me concentre parce qu'on avait 2 tours à terminer, mais il y avait énormément d'émotions à gérer. Et ça fait tellement du bien de gagner à la maison. Et bon, j'ai la chance d'appeler Monaco la maison. Et c'est tellement un Grand Prix spécial en soi. En plus de ça, le fait que j'ai grandi dans cette ville, et c'est juste une journée exceptionnelle. Bah Fred, prépare ton maillot de bain parce qu'en 2018, on avait fait le pari que si on marquait des points, on sauterait dans le port. On n'avait pas réussi, donc là maintenant, tout à l'heure, on va sauter dans le port. J'espère que t'es prêt.
Ils l'ont fait, hein. Il a même poussé Fred Vasseur dans le port, Charles Leclerc, sans maillot de bain. Non, bah ça c'est terrible, Charles Leclerc au micro des collègues de Canal+. Louis, moi franchement j'étais sur le circuit, j'étais dans le paddock et tout ça, et ce qui était assez dingue hier, c'est que même avant le départ de la course, j'ai croisé plein de fans de Verstappen, plein de mecs qui avaient des polos Aston Martin, voilà, ou des Mercedes, ils étaient quand même un peu pour Charles Leclerc, ouais, tu sentais que tout le monde attendait ça en fait hier.
Je pense que tous les fans de F1 hier sont levés avec le même objectif. C'était celui-là, c'était de voir Leclerc s'imposer. On avait vu cette qualif, super qualif, hein, pour le coup, samedi. Je me suis vraiment éclaté devant les qualifs, qui faisaient la piste qui n'a cessé d'évoluer. Et à partir du moment où c'était bon, Leclerc a remis 2-3 dixièmes à Piastri à la toute fin et a sécurisé sa pole. Je pense qu'on était tous en mode, bon, allez, cette année, c'est pour elle. Enfin, tu vois, il fallait que ça soit coché sur la liste. C'était un truc qu'il devait cocher et que tout le monde voulait qu'il coche. On le voyait aussi à la réaction de tous les pilotes à la fin, quoi. Il y avait une joie de tous. C'était Leclerc Day. C'était le jour de Charles. On en avait parlé dans le podcast. Alex avait dit c'est bon, c'est pour cette année. Il avait raison et je pense qu'on est tous hyper heureux. Moi, aujourd'hui, j'ai mis la casquette. Et voilà quoi, Leclerc, il a fait ce qu'on attendait tous de lui depuis 2017, parce que il reste quand même, donc 2018 abandon, 2019 abandon, 2021 il finit pas, et après l'année dernière, il y a deux ans, il fait 4
il
et 6.
Il part pas en 2021, il démarre
ouais. Pas, ouais, parce que ouais, tu sais, ouais.
il a la pole et il est même pas sur la grille.
Et il la fout dans le mur juste ouais. après, c'est ouais. ça, hein, fin de pole.
C'est ça, ouais, juste à la fin de qualif, pardon. À la sortie des ouais, S de la ça. Piscine, exactement, il ouais. tape le ouais, rail. Voilà, Ferrari répare tout, mais il change mais pas le demi-arbre de roue.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il part est-ce même que, pas. Ça, c'était la pire de toutes, je pense.
On peut embrasser d'ailleurs Alexandre Caldi, qui était à Monaco aussi, qui s'est fait inviter par Alpine. Hein. Il nous écoute, bien évidemment. Il est en train de profiter du soleil du sud de la France. Est-ce que juste tu peux nous raconter comment tu as eu ta casquette dédicacée? Parce que moi, tout le monde veut savoir ça quand même. Tout le monde veut savoir ça.
Dans ma longue carrière, je suis passé par C'est à vous une année. Et on a eu la chance de recevoir Charles Leclerc dans l'émission. Et du coup, j'avais dit je m'achète une casquette et je vais. Me payer
le culot. T'es un vrai fanboy, quoi. Ouais, un vrai fanboy.
Exactement, j'ai dit je m'en fous, toute fierté de côté, je vais lui faire signer cette casquette. Et en fait, plein de collègues m'ont suivi, donc finalement, j'ai commandé 5 ou 6 casquettes et on a fait signer à la chaîne Charles Leclerc qui, gentiment, a pris le temps de mettre un petit mot pour tout le monde et avait été adorable.
Mais est-ce que Hamza, il a son petit polo là, à côté de toi?
Non, il est en vert, il est chez Aston.
Hamza, toi, comment t'as vécu cette course? Déjà, faut quand même, bon, parce qu'on parle beaucoup de l'émotion d'après-course, ouais. Mais
le faut passer l'émotion, sincèrement.
Il fait un week-end parfait, franchement, il fait un week-end parfait, de A à Z.
Si on parle de Charles Leclerc, le plus important était le samedi, c'était la qualification, il avait la voiture pour performer, pour faire la pole. Il l'a fait, bravo à lui. Maintenant, sincèrement, le dimanche, c'était long. Quoi.
Ah oui.
Sincèrement,
oui.
c'était long, mais ce sont désormais les spécificités de Monaco, d'un Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Aujourd'hui, certains diront que Monaco n'est plus adapté pour la F1. Moi, je dirais que c'est la F1 qui n'est plus adaptée pour Monaco. Les voitures, ce sont des camions, ça fait 8 mètres de large. Tu ne peux pas dépasser aujourd'hui en Formule 1 à la régulière. Charles Leclerc a dicté son rythme, d'autant plus que le drapeau rouge, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais le drapeau rouge a annihilé toute possibilité stratégique pour Leclerc, pour Norris, pour Piastri, pour Carlos Sainz, enfin pour le top 4, plus ceux qui suivaient derrière. Donc à partir du moment où tu pars en médium, que tu as le drapeau rouge au premier tour, tu mets des durs qui peuvent durer 77 tours. Dès la relance après le drapeau rouge, tu savais que le top 4 n'allait pas bouger, sauf erreur de l'un de ces quatre pilotes.
On peut
erreur,
en parler d'ailleurs, on peut en parler maintenant, Hamza.
On se retrouve avec un top 4 qui n'a pas changé, même pour la première fois de l'histoire de la Formule 1. Le top 10 n'a pas changé entre la grille de départ et la fin de la course. Donc là, ok, c'est génial, l'émotion. on l'attendait enfin, c'est vrai. Ouais. Il n'avait jamais eu de podium. Tu égrenais tout à l'heure, Louis, ses statistiques. On peut même remonter à 2017 et la F2.
Et la F2 aussi, c'était déjà...
Ok, d'accord. Maintenant, si on parle simplement de plaisir téléspectateur, et même les pilotes le disent, t'as Verstappen qui en parle, t'as George Russell qui en parle, on s'est tous fait, pardon du terme, fait chier.
Ouais, c'est vrai que Verstappen le dit, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il dit course ennuyante. Pour lui,
non-course.
Il a dit pour dépasser Russell qui était devant moi, il fallait qu'il roule en F2 et que moi j'ai une Formule 1. Mais du coup, revenons Jean-Luc sur ce drapeau rouge et ce gros accident du début de course, ultra spectaculaire. Trois voitures concernées, Sergio Pérez, alors lui il a vécu un week-end, l'ami de Checo, cataclysmique, et les deux As de Magnussen et Hülkenberg, où Magnussen essaie de se faufiler entre le rail et Sergio Pérez et il attrape la Red Bull. Est-ce que Magnussen est en tort? Parce que moi j'ai lu plein de trucs là, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'est Pérez qui ferme la porte, que c'est Magnussen qui doit pas y aller. Jean-Luc, raconte-nous un petit peu cet incident.
Écoute, de toute façon, chacun peut prendre position. Hein. Moi, en l'occurrence, non, c'est Magnussen à 75%. Allez, on va laisser 25% pour faire plaisir à Pérez. Mais non, c'est lui qui est devant. Il a sa roue avant gauche qui est au niveau de la roue arrière droite de Pérez. On sait très bien que dans la montée de Beau-Rivage, où on prend normalement 240, 250, là, ils sont un poil moins vite parce que c'est le départ, mais ils sont à largement plus de 200. Et puis, on sait très bien qu'il y a cette cassure à droite et que la piste se referme. À aucun moment, Magnussen ne peut passer là. d'autant qu'après il va se retrouver à l'extérieur donc du virage suivant, de la courbe suivante, donc c'est pas possible. Donc il tente encore un coup à la Magnussen. Je suis désolé, je sais bien, moi je déteste pas du tout les pilotes rugueux, on va dire virils, mais tant qu'ils restent corrects, là c'est pas correct du tout. Et d'ailleurs Hülkenberg à mot couvert l'a dit aussi, il a dit bon, c'était pas la peine de faire un pataquès pareil, ça ne pouvait pas passer, donc c'était à lui de lever le pied juste avant. Bon ben voilà, ça fait, heureusement ça se termine bien au niveau humain, hein. il n'y a pas de problème, mais bon, c'est toujours regrettable comme l'a dit Marco, il y en a pour 2 à 3 millions de dollars sûrement. La course des As, elle est pourrie aussi, alors qu'ils étaient pas trop mal placés sur la grille, et puis ça change tout, comme Hamza vient de l'évoquer à juste titre, ça change le cours du Grand Prix. Alors, donc c'est une connerie de Magnussen, je comprends même pas qu'il n'y ait pas, alors la FIA, la direction de course, qui est toujours prête à enquêter sur n'importe quoi, et là il clôt le dossier, donc il n'y a pas de problème.
Et ben, ils ont mis une pénalité à Ocon et ils n'en ont pas mis à Magnussen.
Ils veulent pas le suspendre parce qu'il est sous la menace là.
C'est le risque. Et donc, c'est le risque.
En fait, ils veulent pas appliquer leur propre règlement parce que ça leur irait à leur encontre un peu, quoi. Ça serait pas une bonne image.
Je t'apprécie beaucoup, Jean-Luc, tu le sais, mais je ne suis absolument pas d'accord avec toi sur cet accrochage.
Pour toi, c'est Perez ?
Pour moi, c'est un incident de premier tour. C'est un incident de premier tour à Monaco avec des voitures extrêmement larges, ce que l'on évoquait tout à l'heure. En fait,
pardon de t'interrompre, mais extrêmement large, ça fait combien d'années qu'elles font 2 mètres, les voitures ?
Bah, bien sûr.
Bon, bah voilà, non, c'est pas une nouveauté, c'est pas cette année.
Je trouve que...
Ça fait 15 ans au moins qu'elles font 2 mètres.
On dédouane un petit peu trop le fait que Checo Pérez pilote à ce moment-là sur un départ comme s'il était sur une trajectoire idéale à Monaco, en fait. Il ne ferme pas forcément la porte à Magnussen, par contre il ne laisse pas l'espace, et tu as justement raison d'évoquer les propos de Nico Hülkenberg. C'est un crash pas nécessaire et évitable. Ça veut dire que Magnussen aurait pu éviter le crash en prenant ses responsabilités, et Pérez aurait pu éviter le crash en prenant ses responsabilités. Pérez, en se décalant légèrement sur la gauche, ça ne change rien à sa vie, et lui permet à Magnussen quand même d'avoir un tout petit espace sur la droite, parce qu'à mon avis, le but de Magnussen, ce n'est pas de dépasser Pérez à cet endroit-là, mais de rester plus ou moins à ses côtés pour potentiellement ou pas d'ailleurs essayer quelque chose un peu plus loin.
Casino,
et côté Magnussen, effectivement, il aurait pu lever le pied, mais je trouve que Magnussen aujourd'hui, il est dans une situation en Formule 1 assez compliquée. Effectivement, tout à l'heure, tu évoquais cet aspect de son permis où il est à deux points seulement d'une suspension.
Ouais, il en a déjà
attention 10, ouais. à ne pas tomber, je trouve, dans le Magnussen bashing, dans le sens où, ok, il a fait pas mal de grosses bêtises sur ces dernières semaines et ces derniers mois de compétition, enfin depuis le début de la saison, puisqu'on rappelle que ces 10 points, il les a récoltés en l'espace de 7 courses. Mais je faudrait pas que ce soit un prétexte, je trouve, pour
c'est pas toujours lui,
pour y
c'est
aller.
Pas toujours de sa faute, quoi qu'il en soit, quoi. À chaque fois qu'il est impliqué, c'est pas forcément lui.
Oui, et là je trouve sincèrement, alors qu'il n'y ait pas d'enquête, moi je te rejoins totalement, le fait de ne pas ouvrir une enquête, c'est justement ne pas avoir la possibilité de donner peut-être les 2 points
à Magnussen.
Ça,
chacun,
ça je suis d'accord
exactement.
Avec vous. Par contre, je suis pas totalement d'accord sur la responsabilité totale ou presque de Kevin Magnussen.
Ah, j'ai mis 25% quand même à Pérez.
Certainement, pour moi, on est plus sur du 55-45 Pérez.
Allez, tu vas voir, on va finir à 33.
vous allez vous taper dans la main, vous allez trouver un terrain.
Ah, mais il n'y a pas de problème. Mais chacun son opinion. Tous ceux qui nous écoutent ont le droit d'en avoir une, évidemment.
Mais c'est pour
évidemment.
Ça qu'on dit qu'il y a des débats dans le paddock RMC. Bah, c'est
évidemment
ça qu'on
qu'il y en a.
Louis, pour terminer un petit peu le chapitre Leclerc, mais il a quand même parfaitement géré le week-end, Charles, et c'est ce que moi j'ai rencontré Fred Vasseur après les qualifs. Il disait bon, pour l'instant il est monstrueux, parce que il y avait ce côté émotion qu'il fallait gérer, et Charles, la stat, il les connaît depuis 2017. Vous avez rappelé tout à l'heure toutes les statistiques, il les connaissait. Il a été d'un sang-froid il a été chirurgical, quoi, absolument pas pris par les émotions. Alors c'est revenu dans les derniers tours du Grand Prix parce qu'il savait qu'il avait gagné, sauf problème mécanique, mais il a été très fort.
Ouais, c'est un truc qui m'impressionne toujours. Même d'ailleurs, on en est déjà finalement à sa troisième pole à Monaco. C'est quand même, c'est des exploits à chaque fois, parce qu'il y a tellement de pression. Monaco n'avait jamais eu un vainqueur. Alors hier, il redisait la stat sur Canal+.
C'était quoi, 1930,
1931 ouais,
Louis Chiron.
Chiron.
Oui, mais c'était pas la F1.
C'était pas la F1.
Ouais,
ça, il nous expliquait ça, ouais. C'était pas la F1. Et donc, du coup, ça n'était jamais arrivé. Donc, et puis tu le vois juste, tu vois juste en fait ce qui se passe dans la loge princière. Ou parce que tout à l'heure tu dis ouais, Charles il a un peu cassé le protocole, mais non, c'est son Altesse Sérénissime qui craque.
Ouais,
c'est d'une fraîcheur incroyable. J'ai adoré cette image, moi, vraiment de voir. Il dit allez, foutu le protocole, je te saute dans les bras, j'attrape la bouteille de champagne, j'en mets partout. Il y a quelqu'un d'autre que je connais pas, mais qui était aussi monégasque et qui était extatique sur le podium. Enfin, j'ai trouvé les images superbes et qui t'explique vraiment que ça devait être la pression de toute la principauté et que sûrement que Monaco, en plus à Monaco, le circuit il commence à être construit par pratiquement un mois avant. Donc lui, il vit là-dedans pendant très longtemps en se disant c'est dans trois semaines, c'est dans machin, ça fait six ans que j'y arrive pas. Enfin, il doit se créer une pression, ça doit l'empêcher de dormir. Et le week-end, comme tu dis, à part le meilleur tour, il a tout pris, quoi. Il a fait un week-end vraiment, vraiment impressionnant à ce niveau-là.
On parle beaucoup de l'émotion, de l'émotion, justement, de l'aspect émotionnel de Charles Leclerc. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la piste parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens où Monaco, aujourd'hui, pour Charles Leclerc et pour n'importe quel autre pilote qui se retrouve dans sa situation, c'est à la fois la course la plus simple de la saison et c'est à la fois la course la plus compliquée de la saison. La plus compliquée parce que le plus important, c'est de garder la voiture entre les rails. La plus simple de la saison pour le leader, en l'occurrence Charles Leclerc, ce dimanche. Au rythme que tu le souhaites,
ouais, franchi. Tu veux dire que si t'es solide et que tu fais pas des
erreurs, tu te fais pas dépasser à Monaco. D'autant plus où il y avait pas cet aspect stratégique,
ouais,
où tu peux te faire undercoté ou overcoté. À partir du moment où tu chausses les durs, c'est terminé. Et on l'a vu. Après, attention, il faut avoir le mérite justement de garder. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, Ricciardo, sa victoire à Monaco avec Red Bull, il avait un problème mécanique.
Il avait un problème mécanique au moteur.
Et il fait 20 ou 30 tours sans un rapport.
Et Horner avait été dithyrambique dans la radio et on avait envie de le dire. Oui, bon, bah c'est très bien, mais tant que la voiture roulait, il allait y arriver en fait.
C'est pas une victoire, encore une fois, j'ai pas envie d'enlever le mérite, non, encore plus sur l'aspect émotionnel.
Pas tirer d'enseignement etc. pour la suite de la saison, c'est ce
mais
que tu veux nous dire.
Je trouve que l'enseignement principal, par exemple, pour moi, que j'ai envie de noter par rapport à Leclerc, c'est que depuis le début de la saison, c'est le seul pilote à avoir fait des top 4. Ouais. Là, c'est récompensé par une première victoire encore plus à domicile, mais c'est le pilote le plus régulier depuis le début de la saison. Là, peut-être, tu peux te poser la question, est-ce qu'il peut jouer le titre? Ça, c'est un autre débat, on en parlera tout à l'heure avec Red Bull. Mais sur Monaco, sincèrement, quand ta pole, elle est en 1.10 et que le rythme moyen de course, il est en 1.18, ouais. Rythme moyen, ça veut dire qu'en début de course, tu roulais en 1.20, 1.22, 12 secondes plus lent au tour, voilà quoi.
Avec un Yuki Tsunoda qui est 8e mais qui est rapidement à un tour.
Mais c'est ça, ça
veut dire que
même
ça
la
n'a
radio,
pas de sens.
Même la radio chez Ferrari, après 10 tours, on a dit à Leclerc, tu n'as aucun intérêt à aller plus vite.
Ouais.
Parce qu'il fallait avoir cet écart entre Norris et Russell pour ne pas avoir la possibilité.
Voilà, après, il y a des histoires de pit stop.
On va écouter Fred Vasseur, les gars, quand même. Parce que bon, il a sauté dans le port et puis il a réagi au micro aussi, Fred.
Plus que content pour l'équipe, pour Charles, je pense qu'il court après depuis longtemps. Pour vous, ça n'a peut-être pas été la plus excitante de l'année, mais pour nous, ça a été intense parce qu'on gérait les écarts toute la course. Et je suis hyper content pour lui.
C'est pas le seul Frédéric Vasseur à être ultra content pour lui, on le disait, hein, même tous les pilotes, hein, Verstappen a dit qu'il était très heureux pour lui, et puis Pierre Gasly aussi, c'est son copain Pierre.
Je suis vraiment super content pour lui, ça fait beaucoup de saisons qu'il est proche, qu'il y touche un petit peu. Je crois qu'il va être définitivement sacré le prince de nouveau prince de Monaco. Mais non, il a été vraiment au-dessus tout le week-end depuis la F1, je pense qu'on le sentait arriver. Je lui ai parlé avant la course, il avait l'air en confiance, il était bien, donc je suis vraiment très content pour lui et avec toute sa famille et tout, je suis sûr qu'ils sont ravis aujourd'hui.
Bon Jean-Luc, du coup on va refermer un petit peu la page Ferrari, mais bon ça va de pair avec le statut de Red Bull, parce que Verstappen termine 6e de cette course, que Checo Pérez, on l'a dit, carton au premier tour, 18 en qualif, bref un nouveau week-end à oublier, j'ai envie de dire, pour Sergio Pérez. Hamza le disait, on ne peut pas vraiment tirer d'enseignement de Monaco, mais quand même, est-ce que toi, Red Bull, ça t'inquiète? Et est-ce que tu sens que Ferrari peut prétendre à quelque chose cette saison? Parce que là, on a l'impression que c'est peut-être plus palpable que jamais, là.
Oui, alors avant de répondre à ta question, j'ai pas voulu rentrer dans tout le monde là, mais je voulais rajouter un mot sur le prince Albert quand même, parce qu'il se trouve que je le connais très très bien. On a fait deux Dakar ensemble au milieu des années 80. C'est un vrai passionné de sport mécanique. Je le tutoie pour tout vous dire. Et quand j'ai roulé au Mans, à la fin des années 80, il était là aussi, tu vois, dans le stand. Donc je le connais vraiment très bien. Et c'est un vrai passionné. Je veux dire, voilà, il fait pas semblant, c'est pas que du bidon, c'est un sportif dans l'âme. Et là, je crois qu'il était ému.
Mais ça se sentait hier vraiment. Il a serré le poing. c'est pas trop drôle, il a serré le poing, c'était
Bon, je reviens à ta question. Bah évidemment, elle est très importante puisqu'on a tellement dit et redit que c'est vrai que il dominait le début de saison, que c'était pénible, que à part le problème de frein évidemment qui a permis à Sainz de remporter la victoire en Australie, mais que a priori il bougeait pas, et puis il y a eu quand même Imola, et là on a compris que comme d'habitude, j'ai coutume de dire que Verstappen ne triche pas. Bon, les pilotes, quand ils ont pas de vent, ils te disent toujours on a des problèmes, c'est n'importe quoi. Bon, on a un grand spécialiste, hein, il est 7 fois champion du monde, il y a toujours un truc qui va pas, etc. Bon, mais et puis en fait, au moment où ça va, ça va. Là, non. Quand ça va pas avec Verstappen, bah, il faut que lui sorte vraiment tout son talent, c'est le cas de le dire, soit pour décrocher la pole, ce qui a été le cas, soit pour remporter le Grand Prix avec 7 dixièmes d'avance. Donc, manifestement, c'est pas que Red Bull va moins bien, c'est que les autres ont énormément progressé, bien évidemment. Alors, on le savait pour McLaren bah depuis longtemps, hein, depuis le milieu de la saison dernière, depuis l'Autriche pour être précis, quand les modifications importantes avaient été apportées dans un premier temps à la monoplace de Norris et puis dans un deuxième à celle de Piastri, et à partir de la Grande-Bretagne ça a été fort. Donc on savait, là ils ont encore fait un pas, et puis bah, Ferrari, bah, tout le boulot de Fred Vasseur qui encore une fois est un type absolument formidable. Et pourquoi il y avait tant d'émotions de sa part aussi, c'est parce qu'il a connu Charles avant, hein, il a connu bah, F2 également chez Hart, bah oui, ils se connaissent très 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 bien, donc ils sont, on peut dire qu'ils sont, ils sont potes, enfin ils ont pas le même âge mais ils sont potes, et donc du côté de Red Bull, puisque c'est toujours ta question, bah on a moins bien évolué, on a un problème, alors ils l'ont dit et redit aussi pour effectivement monter sur les vibreurs, on va déjà voir du côté du Canada, parce que le seul vibreur vraiment vraiment gênant, vraiment emmerdant, c'est évidemment le dernier, hein, juste avant la ligne d'arrivée où il faut monter dessus, mais le reste du circuit il est rapide, assez classique je dirais, et puis on a toute une enfilade de grands prix avec l'Espagne après Barcelone, alors ils connaissent, et enfin l'Autriche, bah, je dirais qu'on va se laisser les 3 grands prix, et puis si ça va pas mieux pour Red Bull, eh ben, ce sera très inquiétant pour eux, et surtout ce sera très réjouissant pour Ferrari et McLaren, et je pense que non, les titres ne sont pas joués du tout, parce qu'on peut avoir une bagarre à 3 équipes et 6 pilotes.
Vous y croyez ça, Louis, Hamza, cette bagarre à 3 ou encore une fois, on ne tire pas d'enseignement de cette course?
Ouais, j'y crois de plus en plus, mais tu sais, tu as aussi envie d'y croire parce que nous, on a tout intérêt à ce qui se passe.
Non,
ça,
mais là, détache-toi de ton envie.
Mais après,
est-ce que tu penses rationnellement, comme Jean-Luc, que oui, on peut avoir une vraie bagarre à 3 cette saison?
Ouais, je pense. Peut-être quand même que le problème de Red Bull ce week-end est plus dû à Monaco et au fait que voilà, ça peut arriver un mauvais week-end. Mais c'est vrai qu'on voit que l'étau se resserre. Et c'est surtout plus peut-être que McLaren derrière, pour moi, avance tellement vite et tellement solide en ce moment que ouais, je commence à y croire en fait. J'ai changé d'avis, tu vois, la semaine dernière, je te disais impossible. Ouais. Et en fait, là, je me dis, bah, en fait, pour le coup, McLaren est solide sur à peu près tous les types de circuits. Ferrari est en embuscade aussi, alors pourquoi pas. Et là, tu vois, 31 points vers Verstappen, Leclerc, l'écart. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, un écart. Bon, ça reste 31 points. Hein. En moto, ça ferait beaucoup ou quoi. Mais tu vois, l'année dernière, c'était tellement incroyable que là, on veut y croire. Et moi, je mettrais plutôt un jeton sur McLaren avant de changer d'avis encore la semaine prochaine.
Ce qui est fou, Hamza, c'est que quand on entend Verstappen, quand on le voit, même moi, j'ai fait particulièrement attention à ça quand j'étais dans le paddock, un peu à son body language, voir s'il était agacé de la situation. Le gars, il est ultra serein. T'as l'impression que là, Suken, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il a pas l'air plus inquiet que ça. Vraiment pas, quoi.
Inquiet, non, peut-être pas encore, mais parce que lui est capable de sublimer cette Red Bull qui est extrêmement compliquée à conduire pour un pilote de F1. Mais comme Verstappen, il a un style particulier et que Red Bull développe cette voiture pour lui, Pérez, 18e à Monaco, ça fait pas de Pérez un mauvais pilote. Mais cette monoplace, et on le voit encore plus depuis le début de la saison, elle est peut-être pas aussi performante qu'on veut nous le faire penser. Par contre, aux mains de Max Verstappen, elle redevient une monoplace très performante. Et on sait que ce pilote est un monstre de régularité, commet quasiment jamais d'erreurs. Et justement, les rares erreurs que peut commettre Verstappen, il faut les souligner. Et là, il en a commis une en Q3, en qualif, parce qu'il part 6, mais honnêtement, il aurait pu partir beaucoup plus haut sur la grille à Monaco. Donc, je suis pas forcément inquiet pour le titre pilote. Je pense qu'on peut et qu'on va même avoir une lutte. Maintenant, le problème, le souci principal de tous les autres concurrents, enfin tous les autres, de toute façon, il y en a un voire deux pour le titre pilote, c'est qu'il va aussi falloir se montrer extrêmement régulier jusqu'à la fin.
Ah oui.
Extrêmement régulier côté pilotage. Et puis ensuite, il y a un deuxième point qui sera aussi très important, c'est le développement, le timing des développements des monoplaces, des écuries. Les nouvelles pièces que l'on va apporter ici et là du côté de Ferrari, il y a des évolutions qui sont attendues. Le deuxième gros package est attendu à Silverstone. Je donne un exemple, mais si Ferrari travaille plus vite que prévu et ramène ne serait-ce qu'une partie du package sur le Grand Prix précédent Silverstone et que Red Bull n'a pas encore eu la possibilité d'évoluer. En fait, ça fait une course. Le timing justement de l'apport de ces packages peut avoir une incidence majeure dans le déroulé du championnat parce que 25 points pour une victoire, 18 points pour une deuxième place, ça fait 7 points. 7 points, ça peut valoir un titre de champion.
Bah ouais, ça peut se réduire très vite. Et puis au classement des constructeurs, Jean-Luc, Ferrari a marqué 32 points de plus que Red Bull ce week-end. 32.
Eh oui.
C'est quand même c'est super fort comme stat.
Bah écoute, le problème de Red Bull, alors au classement constructeur, effectivement, si on se reporte là-dessus, c'est qu'il faut deux pilotes dans les points. Et là, Perez, il est un peu nulle part, hein, Pépère. Là, il faut être clair. Bon, c'était 16e, pas 18, Hamza, mais tu m'en voudras pas, c'était très loin quand même. Hein. C'était pas dans le coup, de toute façon. Donc, ça veut dire qu'il n'y est pas. Et c'était déjà le cas au Grand Prix précédent à Imola. Donc, je pense que là, Red Bull, avec un Verstappen tout seul, même sublimé, comme vous le dites très justement, et au-dessus du lot, il va pas pouvoir porter le château à lui tout seul. Hein. Or, les deux autres, bah, on a vu un Sainz très présent également. Bon, beaucoup de chance, évidemment, d'être mis dans la course, mais ça, c'est le règlement. C'est comme ça.
Merci.
Bon,
parce qu'il tire tout droit au premier tour. Il fait une petite touchette.
Oui, mais il ne tape pas le rail non plus. Ouais. Hein. Il ne tape pas le rail, il crève. Il crève suite à son contact avec Piastri.
C'est parce qu'il y a eu le crash de Perez Magnussen et que Guan Yu Zhou, lui, il est au ralenti. Du coup, il s'arrête totalement parce que quand même, il y avait déjà une première frayeur. Et puis du coup, il savait pas où passer. Il y avait énormément de débris. C'était impressionnant. D'ailleurs, il y a un photographe blessé.
Ouais, c'est ça.
Qui va beaucoup mieux. Et parce que du coup, Guan Yu Zhou se retrouve bloqué et prend son temps pour repartir. Que tout avant au moment du drapeau rouge, tous les pilotes n'ont pas passé du coup le premier secteur, ce qui permet à Sainz de revivre. Donc voilà, c'est un petit détail. Mais effectivement, je pense qu'on aura une lutte peut-être plus prononcée sur le championnat constructeur que sur le championnat pilote.
Ouais. Le gros temps fort aussi de ce week-end, c'est ce qui s'est passé chez Alpine. Après deux bonnes qualifications, pour la première fois de la saison, Pierre Gasly arrive à hisser une Alpine en Q3. Il part finalement 10e sur la grille. Esteban Ocon est 11e. Et avant le drapeau rouge, on a cette tentative de dépassement d'Esteban Ocon assez insensée, ou en tout cas c'est ce qui se dit du côté de chez Alpine. Il essaye de prendre l'intérieur sur Pierre Gasly, sa monoplace qui se met à s'envoler parce qu'il y a un contact entre les deux hommes, suspension brisée pour Ocon qui n'a pas pu repartir. Il faut savoir que sur cette course, sur ce Grand Prix de Monaco, pour la première fois, Canal+ inaugurait un dispositif qui est pour le coup très sympa.
Week-end parfait pour l'inaugurer.
Ah ouais. Franchement, là ils ont eu du pif chez Canal. Hein. On va les saluer.
Bravo à vous.
Bravo parce qu'ils ont mis du coup une caméra et un micro dans le stand Alpine avec Bruno Famin, le team principal de chez Alpine, qui pouvait réagir en direct aux questions de Julien Febraud. Et donc après cet incident-là, Julien Febraud, le commentateur Canal+, va questionner Bruno Famin sur l'accrochage entre Ocon et Gasly. Et voilà. Écoutez la réponse de Famin, mais on peut le dire, il a atomisé Esteban Ocon.
On a beaucoup de dégâts sur la voiture, il y a la suspension arrière gauche qui est pliée, il y a le carter de boîte qui est endommagé, donc on change l'ensemble de la boîte là, donc c'est un gros travail. C'est triste ce genre d'incident, c'est exactement ce qu'on voulait pas voir, et l'attaque d'Esteban était totalement hors de circonstance, c'est exactement ce qu'on voulait pas voir et on en tirera les conséquences.
Voilà, et derrière, je crois que c'est Franck Montagny, hein, le consultant Canal+, qui le relance, et Bruno Famin qui dit on va trancher dans le vif, Jean-Luc. On va trancher dans le vif, c'est quand même. Non mais alors, on a fait un podcast spécial Alpine, si vous voulez le retrouver sur l'enfer du début de saison de chez Alpine. Et moi, j'étais assez critique sur la communication de Bruno Famin en disant mais il nous dit rien, franchement il se passe rien. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est super plat. Bon là sur une sortie, Jean-Luc, il a tout démonté.
Ah ben il a été pris sur le vif, hein, c'est le cas de le dire. Écoute, tu sais, il y a un ancien président de la République qui s'appelait Jacques Chirac qui avait coutume de dire dire. Il n'a pas dit que des trucs intelligents, mais ça, il l'a dit. Il a dit les emmerdes, ça vole en escadrille. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que quand tu commences à pas être très très bien, et c'est un euphémisme pour parler d'Alpine depuis le début de la saison, bah évidemment, les problèmes grandissent et puis tout le monde devient très fébrile. Et derrière, comme vous le disiez très justement également, le vernis de la communication où tout est lisse, mais non, c'est formidable. D'ailleurs, chez Alpine, moi, ils commencent à me gonfler. Ils peuvent pas faire une phrase sans mettre en tant qu'équipe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sans arrêt, c'est en tant qu'équipe. Ah bon, on pensait que c'était un club de foot, mais bon, donc c'est une équipe de Formule 1. C'est une bonne information. Et donc là, bah oui, effectivement, bah, quand tu as une caméra sur toi, tu réagis spontanément. Et là, pourtant, Famin, qui est un type assez mesuré dans ses propos, c'est le moins qu'on puisse dire, et là, il s'est laissé aller. Et effectivement, en gros, il a pas dit quel con, mais ça ressemblait un peu à ça, quoi, en disant en plus, c'était gratuit puisque la piste était neutralisée au même moment. Enfin, le circuit était neutralisé et ça allait repartir. Donc, écoute, je pense que les deux pilotes, on l'a dit depuis le début et on le sait depuis toujours, ne sont pas les meilleurs amis du monde. J'ai vu que Pierre Gasly, d'ailleurs, a été vraiment avec insistance, a dit il aurait jamais dû faire ça, c'est
une
erreur.
Tu sais quoi, Jean-Luc ? Tu sais, on va l'écouter. On va l'écouter, Pierre Gasly, on l'a en son micro canal.
Malheureusement, c'est passé au premier tour, ça devrait jamais se passer. Encore moins entre coéquipiers, on avait des consignes assez claires en début de course sur ce qu'on devait faire et c'était clairement pas le cas d'attaquer et comme ça et de prendre autant de risques. Mais c'est des choses qui seront discutées et voilà, aujourd'hui je suis juste, on va dire, content qu'on ait réussi à quand même sauver un point avec l'équipe et qu'on ait pu finir la course avec une voiture. Même si aujourd'hui on aurait dû finir avec les deux et à ce moment-là on était 9 et 10 donc il y avait mieux à faire.
Voilà, et derrière, il dit Esteban est professionnel, hein, il sait ce qu'il fait. En gros, bah, il le cible, hein, Jean-Luc.
Non, mais de toute façon, on le savait depuis le début, hein, et effectivement, là, il y a un accroc majeur. Alors, je ne sais pas quelles mesures ils vont prendre. Non, on parlait, j'ai lu moi aussi, comme tout le monde, une course de suspension, ça ne va pas aller jusque-là. Les esprits vont se calmer. Et puis, il a un contrat jusqu'à la fin de la saison. Je pense que, mais bon, il partira ailleurs, ça c'est sûr. Et puis, on le savait. Et puis, ce n'est pas interdit de penser que Pierre partira ailleurs aussi. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, je crois que si on leur fait une proposition intéressante, je pense qu'ils partiront, voilà.
C'est ce qui gêne en fait. Je suis le seul à trouver ça dur, les gars. Enfin, parce que Esteban Ocon, on le dit depuis qu'on a lancé le paddock RMC, c'était le leader de cette équipe, le gars qui perfait plus que Gasly, toujours corporate. Voilà, il a jamais désingué son équipe alors qu'il aurait peut-être pu. Ça a été le premier à aller chercher un point. Ça fait quand même quelques saisons et quelques courses qui tient la baraque. Et là, ok, son erreur, elle est grossière. Mais il le descend, Famin.
Non, mais c'est une déclaration, en fait, je trouve hypocrite et politique. Si l'inverse avait eu lieu, pas sûr que Famin ait eu ses propos, parce qu'effectivement, t'as un Esteban Ocon qui est sur le départ, ça se sait, il cherche à droite et à gauche, il cherche en fait absolument à quitter Alpine, puisqu'il est en fin de contrat et qu'Alpine ne lui offre pas une voiture. Moi, je pense sincèrement, alors... Non,
c'est une façon de régler le truc en disant bon bah on compte pas sur Ocon et voilà là c'est
oui,
terminé.
Non mais en fait j'allais dire Alpine devrait s'estimer heureuse d'avoir un pilote comme Esteban Ocon parce qu'il y a un décalage monstrueux entre les performances de la voiture et les performances du pilote ou ce que le pilote est capable d'apporter. Je vais peut-être pas aller jusque là parce que ça reste quand même une possibilité énorme d'être en Formule 1, mais quand on connaît les qualités d'Esteban Ocon, oui, il a fait une erreur. Mais comme beaucoup ont commis des erreurs, il y a déjà eu une lutte, c'était à Miami entre Ocon et Gasly, cette fois c'est Pierre Gasly qui était à l'origine de l'attaque. D'ailleurs, je suis retombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller voir la caméra embarquée de Lance Stroll au départ de ce Grand Prix de Monaco où tout en haut de Massenet, il y a Gasly qui éjecte un petit peu Esteban Ocon et qui est pas loin de l'envoyer sur le rail. Donc c'est peut-être pour cette raison que Ocon décide d'attaquer Gasly juste avant le tunnel. Moi je veux bien encore une fois que mais là où je trouve que c'est une déclaration politique de la part de Bruno Famin, c'est effectivement la situation contractuelle d'Esteban Ocon. Il quittera Alpine à la fin de la saison. Il ira chez Haas, il ira chez Audi, il ira peu importe le
peut-être même Mercedes
bien sûr. Oui, bien sûr, peut-être chez Mercedes. Et puis on passera à autre chose, mais tu vas perdre Ocon, je ne sais pas qui tu vas récupérer. Par contre, je ne suis pas sûr que tu récupères un meilleur pilote qu'Esteban Ocon au vu de la situation sportive aujourd'hui d'Alpine.
Il est assez. En fait, il est super paradoxal, Louis, ce week-end pour Alpine, parce que tu es en Q3, tu marques un point, Hein, tu doubles ton total de points de la saison. À côté de ça, tout le monde a été focalisé, accaparé par cet incident entre les deux pilotes, bon, qui marque vraiment le point de rupture entre les deux. Hein. On le disait déjà la semaine dernière après Imola, mais là, ça y est, on le sait. Donc en fait, tu as l'impression qu'Alpine avance un petit peu, peut-être sportivement, même si ça reste que Monaco.
Avance par dans contre, quel derrière... sens, Nico ? Ouais.
Rappelez-vous l'année dernière Monaco, Esteban Ocon il fait podium à Monaco. Alors, il avait une bien meilleure voiture que cette année. Évidemment, il avait une bien meilleure voiture que cette année. Mais ouais. Monaco, ça a toujours été la piste où le pilote peut faire la différence plus que sur n'importe quel autre circuit. Donc que Gasly soit en Q3 et que Ocon était pas loin d'aller en Q3 avec une monoplace qui est quand même qui fait partie de la deuxième partie du deuxième partie de tableau. Bon, attention, ce que je veux dire c'est que l'importance du pilote, oui, elle est. Mais attention à ne pas considérer que c'est un renouveau pour Alpine.
Oui,
surtout pas. Premier point à la régulière, mais rien de plus en fait. Parce que
sans
c'est
aller
Monaco,
aussi
quoi.
Loin, sans aller aussi loin, oui. Mais bon, ils le disent, même dans leur communication, ils parlent un petit peu de dynamique d'équipe, ils essaient d'enclencher quelque chose.
Et là, on l'a bien vu là.
Non, mais voilà. Non, mais là, c'est totalement tué par ce qui s'est passé.
Ouais. Non, mais après, tu sais ce qui s'est passé. Je pense qu'on avait tous au fond de nous, tu sais, dans la grande sérénade d'il y a un an et demi, deux ans, les deux enfants de Normandie,
l'équipe de France,
et voilà, tout ça et tout. On se disait, attendons les premiers. Soit il y avait deux plans, soit on avait une voiture compétitive, auquel cas ils pouvaient espérer beaucoup d'un Grand Prix et du coup, ça devenait une concurrence malsaine parce que plus tu as à gagner, plus tu commences à pas vouloir laisser la place, ceci, cela. Ou dans ce cas-là, t'es arrivé au bout moralement, les deux sont tendus, ils n'en peuvent plus, et là tu viens doubler au portier. Enfin, t'es pas non plus premier, deuxième. Enfin, je veux dire, et puis c'est ton coéquipier. Et puis,
c'est le premier tour.
C'est le premier tour. Et puis,
mais c'est peut-être la seule opportunité de la course pour dépasser.
Oui, ça, c'est vrai.
C'est pas faux. Ouais, mais apparemment, ils avaient des consignes en plus. Enfin, il y a un moment. Et puis, Pierre en fin de contrat aussi. Donc, je vous rejoins sur.
Il a une année en option.
Je vous rejoins sur Bruno Famin qui, je pense, se dit de tout perdu pour perdu. Ça peut faire une espèce de petits beaux moqueurs à Pierre de voir qu'il peut-être pour la première fois de l'année il est aussi publiquement soutenu. Il profite peut-être un peu de l'occasion d'une faute où en fait il est facile de tomber sur Esteban, parce que c'est vrai que quand tu la revois tu te dis comme disait Hülkenberg, c'est unnecessary, il n'y avait vraiment pas besoin d'y aller.
C'est ce qu'on
appelle
un euphémisme.
C'est ça, parce que
c'était pas la peine.
Non, c'était pas la peine.
Ce que je note juste, c'est que la saison dernière, au même stade de la compétition après 8 Grands Prix, Alpine avait 44 points. Cette saison, ils n'en ont que 2.
Et c'est ce ils ont doublé. Ils ont doublé.
Divisé par 22.
Mais attention à ne pas à ce que cette affaire Ocon, parce que Bruno Famin en a fait une affaire.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi là-dessus. L'affaire
sur la place publique. Attention à ce que ça ne devienne pas une sorte de contre-pare-feu, parce que non, le plus important, c'est la situation sportive d'Alpine qui doit absolument développer sa voiture. Sinon, c'est la 8e, la 9e place pour laquelle l'écurie va se battre.
Ah, vous pensez ? Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant. J'y ai pensé moi aussi hier. Jean-Luc, tu penses que Bruno Famin est capable de faire exploser un peu cette histoire en se disant, bon, si on se focus sur Ocon, de toute manière, on ne le garde pas, ça peut éviter 2-3 ennuis. On ne parlera plus des pertes de notre voiture pendant quelques jours.
Écoute. Je sais pas si c'est aussi manichéen que ça, honnêtement, hein, parce que c'était quand même inattendu. A priori, c'est arrivé comme ça. Je dirais, c'était pas programmé. Alors maintenant, dans sa tête, sachant qu'Ocon de toute manière va partir, il se dit, autant privilégier Gasly pour le garder. Alors moi, ce qui m'a frappé depuis le début de la saison et même le début de leur cohabitation, c'est vraiment que ce sont, on l'a dit et redit, deux excellents pilotes, deux vainqueurs de Grand Prix, et ils sont très souvent à un dixième. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais à tout niveau, en course, etc. Ils sont très très proches. Alors après, il y en a un qui a un petit souci, l'autre qui l'a pas. Enfin, mais ils sont, même si, on va dire, globalement, Esteban était un tout petit peu devant, un tout petit peu, mais vraiment très peu. Là, c'est plus le cas. Ça y est, ils ont un point chacun et puis ils repartent dos à dos. Bon, moi, j'espère surtout qu'on va bien terminer la saison et que ces dissensions internes étalées sur la place publique ne vont pas perturber le fonctionnement en tant qu'équipe. Et c'est de l'humour, évidemment.
on va lui donner la parole à Esteban Ocon quand même, parce qu'il est revenu sur cet incident. Moi, je l'ai croisé hier. Hein, je lui ai tendu le micro.
Ouais, ça va. L'autre, il se la pète depuis tout à l'heure. J'ai croisé lui.
Mais non, c'est pas ça. Mais non. Alors, oui, c'est vrai, t'as raison.
Il m'a dit, quand t'es là, Nico, je suis content de te voir.
Non, mais il est jaloux, celui-ci, alors qu'il a sa casquette dédicacée de Charles Leclerc. Non, mais c'est fou, ça. Non, mais parce que c'est vrai qu'en fait, tu les vois, les pilotes, tu les vois marcher. Tu vois comment ils sont. Tu vois leur body language. Tu vois dans quel état d'esprit ils sont. Et par exemple, Esteban Ocon, souvent après les pilotes dans le protocole, ils parlent en anglais, ils répondent en anglais. Et quand t'as la presse française, t'essayes de glisser un ou deux mots en français, surtout pour les radios. Bon, je peux t'assurer qu'hier, il avait pas du tout envie de parler français. Il avait envie d'écourter les choses très très vite. Il a juste parlé en français chez Canal et on sentait qu'il était pas bien.
Et il a dit il a été laconique. Il a dit vraiment ce qu'il avait à dire. C'était pas ouf. Au revoir.
On va l'écouter.
C'était un truc de fou. Voilà, c'est un incident malheureux, malheureusement, voilà, ça touche un peu et c'est moi qui abandonne. Donc j'espère que l'équipe pourra marquer des points sur la course.
Voilà, un incident malheureux.
C'est moi qui abandonne, genre, alors que c'était pas de ma faute.
Il a depuis fait un tweet où il est revenu sur ça en disant que c'était de sa faute, qu'il espérait que l'équipe, c'était pendant la course. Hein. Mais juste après.
Pardonnez-moi, mais ça touche un peu, il fait un bond à 2 mètres de l'eau. Il manque de passer par-dessus.
Il a failli finir dans le port.
Bah oui, t'as raison.
Mais tu sais quoi, même après les qualifs, il était ultra tendu, Esteban Ocon. Ça s'est vraiment ressenti parce qu'il dit qu'il avait le potentiel pour faire 5 ou 6 Hamza en qualif, du coup il fait 11, il rate la Q3 et il était vraiment, c'était un week-end où il était pas bien, ça se ressentait.
Écoute, moi je vois, j'entends les déclarations, encore une fois c'est pas forcément pour mettre en confiance l'un des deux pilotes, parce que Gasly et Ocon sont, et c'est l'une des rares satisfactions de la saison, sont deux pilotes qui peuvent faire surperformer une voiture. Donc si aujourd'hui Alpine n'a pas la possibilité à la régulière de marquer des points, tu peux compter sur deux pilotes qui peuvent bénéficier de circonstances de course, mais eux répondront présent le jour où ça arrivera. Bah, si tu tires sur l'un des deux, bah, ça fait 50% de chance en moins. En tout cas, tu ne mets pas l'un de tes deux pilotes forcément en confiance, et attention à ce que ça ne se ressente pas à l'avenir. Moi, je me souviens d'un départ après drapeau rouge en Australie où il restait deux tours, où Gasly envoie Ocon dans le mur et t'as deux Alpines qui abandonnent. À l'époque, c'était l'équipe, comme dirait Jean-Luc. Donc, voilà.
Bah oui, ça devait être le deuxième ou le troisième Grand Prix de la saison dernière.
C'est ça,
hein, quand
c'est
même.
Ça. Donc, c'est ça. Mais attention, Ocon est responsable de ce qui s'est passé. Mais je trouve effectivement, et je te rejoins Nico, que la communication... on en fait beaucoup trop sur cette...
Dans le dernier podcast, vous vous rappelez, Alex avait dit « Je me demande ce qui a bien pu se passer au sein de l'écurie entre Alpine et Ocon pour en arriver là. » Et finalement, cette attitude-là de ce week-end, elle confirmerait qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est brisé il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a un truc qu'on ne connaît pas, qu'on saura peut-être, mais c'est vrai que ça...
Le fait qu'il veuille se barrer, hein,
oui, façon, ou alors tout simplement, il est arrivé un jour dans le bureau, il a fait « Bonjour Bruno, je vais me barrer. » Et là, depuis, l'ambiance a changé, hein,
Je me souviens d'un départ au Japon à Suzuka, je sais plus, c'était cette saison ou la saison dernière, pareil, où Ocon il rate un peu son départ et Gasly écarte un petit peu. Enfin, après, ce sont des
incidents. On a bien compris des incidents. Quand tu as choisi.
Non, mais j'aime pas la communication de Bruno Fama, la déclaration, c'est du sport politique, et c'est ce que j'aime pas en fait.
Hamza, il a pas ramené sa casquette Leclerc, par contre, il a le caleçon dédicacé Ocon.
Non, par contre, j'ai pas celui de Bruno Fama, ça je le garantis.
Et vous savez que c'est un leitmotiv chez moi, je vais rajouter un truc. Hein. Dès que tu mets des caméras, l'attitude des gens change. Je suis désolé. Hein. C'est le mal de Netflix. Et bah oui, ça c'est en creux, si tu veux. Les gens ne se comportent plus naturellement. Ils jouent un rôle.
Sauf Fred Vasseur, qui lui reste le même.
Sauf Fred. On est d'accord. On est bien d'accord.
C'est vrai qu'il est classe quand même.
Il est incroyable.
Et Verstappen. Ils sont au moins deux.
Qu'est-ce qu'on retient, Jean-Luc, d'autre de ce Grand Prix? Hamza le disait, Monaco, et tu le disais aussi. Enfin, vous l'avez dit tous les trois d'ailleurs, que Monaco c'était un peu le Grand Prix des pilotes. Et on a vu que Alex Albon, lui aussi, quand il a une opportunité, il peut marquer des points. On a vu que pour Aston Martin, c'était très compliqué encore, Jean-Luc, hein, ce week-end.
Ah bah c'est terrible, là franchement ça fait mal au cœur là aussi, parce que Fernando il a toujours autant d'implication, il a toujours autant de talent évidemment, le voir partir comme ça sur la grille 14e, c'est une horreur. Alors évidemment il y a toujours une raison, une nouvelle fois les trois grands prix qui viennent vont nous permettre de voir réellement quel est le niveau d'Aston, mais moi je suis très très inquiet. Hein. Si on regarde là aussi en tant qu'équipe, on va la sortir souvent, ils ont marqué très peu de points, le maximum de points qu'ils aient marqué 6 en Australie, 12. Ils en avaient marqué 10 en Arabie Saoudite. Et après, c'est vraiment la dégringolade. 8 au Japon, 7 en Chine, 2 aux États-Unis, 2 en Italie. Et je ne vous parle pas de Monaco.
Et ça fait 44 points, là où la saison dernière, au même stade de la compétition, ils en avaient 154.
Ils étaient top 3 encore avant.
Points en et bien voilà, ouais, tu as tout dit. Tu as tout dit. Quasiment 4 fois plus. Donc, ouais, ça ne va pas du tout. Là. Si on ne trouve pas des upgrades et si on n'apporte pas des modifications, je suis très inquiet pour eux pour la fin de saison. Alors, effectivement, là aussi, ils sont un petit peu tout seuls pour le moment au 5e rang du championnat, comme tu le soulignais, Hamza, avec 44. Mais attention à RB derrière, avec 24. Là aussi, c'est un peu Tsunoda tout seul pour le moment. Ouais. Mais bon, lui tout seul, il peut y arriver. Hein.
Et sinon, Louis, on a eu Lewis Hamilton, bon, qui s'est encore une nouvelle fois plaint, j'ai envie de dire. Il a dit, bah, de toute manière, je pourrais pas battre George Russell en qualif parce que j'ai pas le bon setup, j'ai pas les évolutions sur la voiture. Voilà quoi. Hein. Comme depuis le début de saison, j'ai envie de dire.
Ouais, je crois que Lewis, il est clairement en jardinage jusqu'à Bahreïn l'année prochaine.
Ouais, mais tu vois, on dit ça chaque semaine. À chaque fois dans le paddock RMC, on dit ça. Ouais. Il y a quand même un moment où tu peux être. On parlait de classe tout à l'heure, mais t'as l'impression que dès qu'il se passe un truc, en fait, il met un tir à son écurie, il met un tir à son coéquipier, il met un tir à sa voiture, alors qu'il a tout gagné là-bas quand même.
Oh, ouais, mais il le faisait déjà peu à l'époque, à la grande époque. Hein, alors ça passait mieux parce qu'à la fin, il gagnait et puis il disait « Ah, you've done an amazing work, merci et tout ». Mais une demi-heure avant, il disait « Pourquoi cette stratégie ? Mes pneus sont morts, t'es sur Bono, mais vous avez encore fait n'importe quoi ». Moi, je l'ai jamais trouvé incroyable à la radio. Après, à la radio, je suis jamais trop sévère parce que je trouve qu'il est difficile de juger un mec à 300 à l'heure entre des rails, quoi. Je me dis, je pense que t'as moyen de... T'as toujours... Tsunoda a énormément progressé, hein, t'as moyen de le faire calmement. Mais je pense que parfois, il faut aller vite et tu vois, et tu dis les choses, quoi.
Et puis la réalisation te fait entendre ce
que tu veux entendre, exactement. Ça, évidemment, ce qui peut faire gonfler aussi le truc.
Non, par contre, je ne te rejoins pas totalement parce que je trouve que chez Mercedes, cette course de Monaco est l'illustration de ce qui ne va plus chez cette écurie. Je prends pour exemple, il y a tellement de choses à évoquer sur Monaco et Mercedes, on n'aura peut-être pas le temps, donc je vais juste parler de l'aspect stratégique. Quand tu décides... T'as 2-1 contre Verstappen et que tu mets tes œufs dans le même panier en mettant Russell et Hamilton sur le même pari pneumatique en partant en dur.
Tout à fait.
Et c'est la première radio déjà de Lewis Hamilton qui te dit « Mais je vous l'avais dit les gars, sous-entendu, moi je voulais partir en médium, lui part en dur. Comme ça derrière tu changes et tu peux éventuellement mettre la pression. » Pareil, t'as Hamilton qui s'arrête, qui tente l'undercut. Tu le sais qu'il va tenter l'undercut parce qu'il était à 4 secondes de Verstappen tout au long de la course. Et d'un coup, il va hausser son rythme pour revenir quasiment sous la seconde pour tenter l'undercut. Il fait son arrêt. Et chez Mercedes, personne n'a la lucidité d'esprit de se dire on va demander à George Russell de ralentir tranquillement, comme notre ami Charles Leclerc, piano.
Comme l'ont tous fait, en fait.
Exactement. Ralentir Max Verstappen. Comme ça, si Verstappen ressort, Hamilton, il est devant. Voilà. Si Verstappen ne sort pas, dans ces cas-là, tu empêches Max Verstappen de s'arrêter. Enfin, cette écurie, aujourd'hui, elle a la tête à l'envers dans tous les domaines. L'aspect pilotage, l'aspect management, Toto Wolff, ses déclarations. Ça fait 2 ans, on l'entend, ça va pas, mais on est sur la bonne voie. Ça va pas, mais on est sur la bonne voie. Si même aujourd'hui, sur l'aspect stratégique, il n'y arrive plus, où va Mercedes ?
On l'a perdu à Abu Dhabi 2021.
Dans le mur.
ils y vont bien.
Jean-Luc,
toi la 4e place du championnat, peut-être.
Oui, il n'y a pas de danger parce que derrière, effectivement, Aston et Racing Bulls, tu ne dis pas. Voilà, ils termineront 4e.
Attendez, les amis, on arrête tout. On est en direct. Nadal vient de perdre son match. C'est un grand moment, c'est son dernier match à Roland Garros. Voilà, reprendre.
C'est vrai, parce qu'on s'intéresse pas qu'à la Formule 1.
C'est terrible.
On pourrait en faire des podcasts aussi. C'est pas nous les spécialistes. Numéro 1.
J'ai une autre chose à vous dire, c'est que Alonso sera pas champion du monde, pas 3e titre cette année pour lui.
Non. Il va pouvoir l'attendre un peu.
Et peut-être pas l'année prochaine. Mais moi,
je pense que Aston, c'est vraiment la fin du rêve, parce que finalement, ça a été une espèce de. Vraiment, le rêve, c'est le mot. Là, ça y est, ils se sont réveillés. Ça a duré 6-8 mois. Et en plus, comme en Formule 1, tu sais, tout est un peu décalé. Donc, ils ont un peu vécu sur leur début de saison de l'année dernière incroyable. Et à chaque demi-bon résultat, on se disait « Ah, tu vois, ils sont quand même encore là ». Mais bon, là, ils n'y arrivent plus. Et clairement, comme le disait Jean-Luc, c'est 5e, plus à regarder RB qu'à regarder devant.
Attendez, les gars, la bonne nouvelle, c'est que New Wave va chez eux. Et New Wave, il arrive, il en fait une putain de bagnole pour 2026.
Bah, tu sais quoi, ça ferait, ouais, ça serait sympa, ça ferait des trucs.
Justement, faut attendre 2026. De toute façon, il y aura la nouvelle usine, etc. Mmh. Ils vont apprendre tranquillement, peut-être de nouveaux. De nouvelles personnalités qui vont... Mais oui, 2024, voire 2025, ça s'annonce compliqué pour Alonso.
Jean-Luc, qu'est-ce qu'on retient encore là de ce Grand Prix ? On n'a pas trop parlé de Piastri et de Norris, parce que bon, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, mais ils ont été encore très bons. Piastri a été très bon.
Ce que j'allais te dire, parce que c'est vrai qu'on est passé très vite. De fait, les gens heureux n'ont pas d'histoire, hein, mais ils font un tir groupé formidable. La monoplace de Piastri, là aussi, on lit après, ah oui, il avait perdu 20 points, puis 10 points, puis 2 points et demi. Bon, on s'en fout. Il était, de toute façon, comme il roulait, comme l'a souligné Hamza, je crois, à 4-5 secondes des temps, donc c'était pas grave. Hein, même avec 30 points de moins, il y arrivait quand même. Donc,
Ils font un très très beau travail,
McLaren, un très beau tir groupé. J'adore ces deux pilotes, ces deux jeunes types qui sont ambitieux. Le calme de Piastri qui est sidérant. Alors lui, vraiment, à 23 ans, hein, deuxième saison de Formule 1, il est vraiment d'une lucidité extraordinaire. Et moi, je pense qu'il va donner du fil à retordre à Norris, qui est dorénavant un vainqueur de Grand Prix. Bah, le prochain, à mon avis, sur ma liste personnelle, c'est Piastri. Hein.
Je te rejoins. Ouais. D'ailleurs, depuis Spa 2023, donc l'été dernier, depuis qu'on a une McLaren performante, ça a commencé avec l'Autriche 2023, mais seul Norris avait les évolutions. Depuis Spa 2023, le bilan des qualifications entre Lando Norris et Oscar Piastri, il y a eu 23 courses. À votre avis, on est sur du combien-combien ?
Genre égalité, là.
Comme tu nous présentes, à mon avis, c'est Piastri qui est devant pour un ou deux.
12-11 Norris. Ouais, voilà, et vous remarquerez, à chaque fois en qualification, lorsque Norris est devant ou lorsque Piastri est devant, ça se joue à rien. Un demi-dixième, deux centièmes, un centième. Enfin, c'est passionnant de voir à quel point... Ça fait un peu écho à ce qu'on disait en début d'émission, c'est que McLaren aujourd'hui a deux pilotes très fiables parce qu'il y a Norris, mais aussi parce qu'il y a Piastri.
Et pour le coup, ils s'entendent bien.
Ils maximisent ce qu'ils faisaient peut-être un peu moins bien la saison dernière, là, ces derniers temps. Ils maximisent, quoi. Ils marquent tous les points qu'ils peuvent marquer avec leur voiture c'est top, quoi.
Piastri, les gars, merci beaucoup. De métier, voilà.
Hein. Allez, Nico, je voulais parler de Sauber. Non, je rigole, il n'y a rien à dire. C'est le problème de cette écurie, c'est que je trouve c'est qu'ils ne sont pas là en ce moment. Tu sais, tu n'as rien à raconter avec eux, tu es là.
La coupe de cheveux de Bottas en tant qu'équipe.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est que si on parle du Gravel et de la coupe Mulet, quoi, toujours, il faut parler de la piste un peu.
Bottas est l'un des rares à avoir réalisé des dépassements à Monaco. C'est à souligner.
Et il était très beau, d'ailleurs.
Je crois que Zhou va être obligé d'avoir la même coupe de cheveux le prochain Grand Prix. Teint en blonde avec les cheveux comme ça, ça va être génial.
Vous allez dire que je ramène encore tout à moi, mais j'étais à 10 cm de Bottas et c'est vrai que la coupe mulet quand même. Valtteri continue. Voilà, c'est l'édito du jour, mais continue Valtteri, continue vraiment parce que c'est vraiment incroyable. Oui. Les gars, merci beaucoup. Prochain Grand Prix, le Canada, dans 15 jours. On s'est régalé. N'hésitez pas à venir nous noter, noter Hamza. Hamza, j'espère que tu vas pas nous faire une Oliver Berman, que tu vas revenir avec nous.
Ça dépend de la suspension de Kevin Magnussen.
t'as été monstrueux. Merci mon Jean-Luc. Merci Louis. Louis qui a sa casquette de Charles Leclerc et qui a aussi le débardeur. T'as le débardeur de Raphaël Nadal aussi visiblement.
Je suis plus Federer, mais grand quand même légende qui s'arrête.
Il adore tous les
sports. Il a acheté les chaussettes de Zou qui étaient en vente.
venez partager ce podcast sur les réseaux. Vous nous donnez vos avis. On attend vos commentaires. Bien évidemment, pour faire parler du podcast. On vous retrouve dans 15 jours pour Montréal et puis la semaine prochaine, parce que vous le savez maintenant, le paddock RMC, c'est tous les lundis sur RMC. Bye bye.
Ciao.
Le paddock RMC.